Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler de territoire. Au niveau du collectif des Garrigues, on aime bien parler de l'approche territoriale, avec une en vue, on va dire, d'une rencontre qui va se passer bientôt, un événement qui va se passer le jeudi 21 janvier 2016 à Tornac, donc dans le Gard, toute la journée. Une rencontre territoire, donc il y a plusieurs rencontres qui s'organisent dans les régions du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qui est organisée par l'Union nationale des acteurs du développement local. Et donc, le titre de cette rencontre, c'est « La commune, espace privilégié pour la participation citoyenne ». Vaste sujet que l'on va essayer de développer pendant cette émission, puisque au collectif des Garrigues notamment, on s'intéresse particulièrement sur ces questions de participation citoyenne sur les territoires. Alors pour en parler, on est aujourd'hui avec Clémentine Lelay, membre de l'UNADEL. Elle va nous expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est que cette association. Et qui est également, d'un point de vue professionnel, directrice du pays Garrigues et Costières de Nîmes. Alors Clémentine, bonjour.
Bonjour.
Alors, le pays Garrigues et Costières de Nîmes, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le pays Garrigues et Costières de Nîmes, comme tous les pays, c'est une structure de développement local. C'est une structure qui rassemble plusieurs collectivités, donc chez nous, trois intercommunalités, et également le Conseil général du Gard. C'est une structure qui est vouée à faire le lien donc entre des territoires intercommunaux, entre des acteurs socioprofessionnels sur un territoire. L'objectif, c'est vraiment voilà, de garantir ce lien-là entre les acteurs socioprofessionnels et les institutions. Et c'est des structures qui sont aussi là pour permettre d'accompagner les projets. Alors on peut accompagner à la fois des projets publics, mais aussi des projets privés, des projets d'associations, des projets d'acteurs économiques. Donc c'est une structure qui est là pour faciliter, faire le lien, un espace de coopération, un espace de dialogue. On est à la fois structure assimilée collectivité, c'est-à-dire qu'il y a des élus qui sont à la tête de ces collectivités, mais ces élus, ils ont pour souci le dialogue avec la société civile.
Alors c'est né, il me semble, notamment dans l'Ouest, dans la région Bretagne, etc., où on a voulu essayer de calquer sur des pays existants, dans le sens des pays des espaces de vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne sont pas spécialement des zones administratives, sur lesquelles les gens ont l'habitude de vivre ensemble. Et c'est l'idée, l'esprit de la loi, c'était justement d'avoir un organe à cette échelle-là qui puisse faire du dialogue.
C'est exactement ça. On sait aujourd'hui que les intercommunalités, elles sont des territoires sur des espaces de gestion. Mais ces espaces de gestion, ils ne correspondent pas forcément au bassin de vie des habitants. Quelqu'un qui habite chez nous sur le territoire du Pays Garrigues et Costières de Nîmes, quelqu'un qui habite à Saint-Géniès, il n'est pas que sur le territoire de sa petite communauté de communes. Il va avoir des liens avec la ville de Nîmes, il va aussi avoir des liens de travail, de fréquentation, de commerce avec la ville d'Alès. Et donc, l'idée des pays, c'est vraiment de sortir des périmètres strictement administratifs pour être plus sur des territoires de vie et se dire, bon, à cette échelle-là, c'est pertinent de réfléchir à l'organisation des transports, à l'organisation économique, pour voilà, sortir de logiques administratives qui ont forcément des périmètres qui sont un peu contraints.
D'accord. Et donc, Clémentine, tu es aussi membre et administratrice de l'UNADEL, l'Union nationale des acteurs et structures du développement local. Est-ce que tu peux nous dire un peu mieux ce que c'est que cette association ?
Alors, cette association, effectivement, donc Union nationale des acteurs et des structures du développement local, c'est une association qui est née en 1992 d'une fusion de deux associations déjà existantes. Et cette association, elle a pour objet vraiment ce dialogue entre institutions, société civile, acteurs du développement local. Elle est là pour faire ce lien qui aujourd'hui on trouve un peu distendu avec des collectivités, des élus auxquels on reproche d'être un peu déconnectés parfois de la vie des habitants, de la vie sur ces territoires. Elle est là pour faciliter ce dialogue. Elle est là aussi comme lieu de ressources, de veille, c'est-à-dire informer sur l'actualité législative en ce qui concerne effectivement l'organisation de nos territoires, l'organisation de la démocratie sur le territoire français. Elle est là aussi pour mettre en lumière les territoires sur lesquels il y a des initiatives, sur lesquels il se passe des choses. C'est un espace de rencontre, d'échange. Donc il y a ce qu'on appelle un carrefour des métiers du développement local. L'objectif, c'est de permettre des échanges de pratiques entre des acteurs en disant, sur ces thématiques-là, qu'est-ce qu'on peut essayer ? Un territoire qui a envie d'avancer sur une thématique va se nourrir d'autres territoires qui vont aller mener ce même type d'action ailleurs. C'est aussi un espace de formation. Donc, c'est une association qui est amenée à former des acteurs sur les territoires, que ce soit des conseils de développement, des conseils citoyens, qui permettent de décrypter un petit peu tous les enjeux des réformes territoriales, qui permettent de mettre en œuvre. Voilà, l'objectif, c'est de permettre de mettre en œuvre cette participation dans les territoires. Et enfin, c'est aussi un lieu d'expression politique, parce que son objectif à cette association, c'est de promouvoir effectivement le développement local participatif. Et pour ce faire, on contribue à la rédaction et à la définition des politiques publiques, par la rédaction d'amendements, etc. Quoi dire d'autre sur l'UNADEL ? Il y a également des groupes de travail, des publications, des notes qui sont effectuées et qui sont à destination de tous. On est bien entendu en lien avec d'autres réseaux. Il y a plein de réseaux qui travaillent sur ces questions-là, avec parfois des logiques qui sont différentes, mais en tout cas avec ce même objectif in fine, qui est la participation des citoyens à la vie des territoires. Donc on peut citer par exemple le réseau rural, les foyers ruraux, le collectif Pouvoir d'agir, l'Association nationale des pays et des pôles. Voilà. Et il y a plusieurs relais régionaux. Notre objectif, c'est ça, c'est une association nationale avec toujours ces difficultés d'associations nationales qui sont un peu centralisées, qui sont à Paris. L'objectif pour être au plus près des territoires, c'est vraiment d'avoir des relais régionaux. Donc on en a plusieurs, notamment en Lorraine, en région PACA, etc.
Et d'où aussi l'organisation des rencontres, comme il va y avoir à Tornac très prochainement, qui se font sur des communes, qui va se faire sur une commune de notre territoire des Garrigues. C'est pour ça qu'on en parle dans cette émission. On va s'écouter une petite musique et on revient juste après.
Tired of your trifling ass. to you need. Oh, oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up. Stand up. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. You got to raise your head. Make it through. You got to be real yourself. Gotta make a move. Stand up,
stand up,
baby,
baby.
Stand up. You got to stand up, baby. Stand up.
Alors on vient d'écouter une chanson de Andy Zara sur les ondes de Radio Escapade. Alors aujourd'hui sur Escapade en Garrigue, on explore la notion de territoire et de participation citoyenne sur les territoires. Je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière, un petit historique pour replacer le contexte un petit peu de cette problématique-là. Il faut se dire que... Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 glorieuses, on était dans un contexte très centralisé. C'est-à-dire que l'État était très fort et organisait la vie sur l'ensemble des territoires de la France. Par exemple, il y avait différentes agences qui organisaient, par exemple, l'aménagement du territoire en disant telle région va avoir une vocation viticole, par exemple pour la nôtre, telle autre région une vocation industrielle, etc., etc. Et donc, c'était organisé de façon très centralisée, etc. Il y a eu un petit peu des critiques de ce fonctionnement-là qui sont nées dès les années 60, en disant, oui, mais nous, en tant qu'acteurs de terrain, où est-ce qu'on peut dire notre mot, quoi, sur comment ça évolue, comment ça se fait, comment ça s'organise, etc. Et donc, petit à petit, il y a eu des différentes organisations, rencontres qui se sont faites à droite, à gauche, pour dire ben voilà, comment on rallie les acteurs économiques aussi, les entreprises, les associations, les acteurs culturels aussi, pour qu'ils aient leur mot à dire là-dessus. Il y a eu des rencontres notamment qui ont donné lieu à la création des parcs naturels régionaux, par exemple, des rencontres qui sont faites dans le Luberon à la fin des années 60, qui ont amené des nouvelles formes. Et toute cette démarche-là a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à ce que arrivent les grandes lois de décentralisation. Et donc la décentralisation, c'est à partir du début des années 80, des grandes lois qui va réorganiser d'un point de vue institutionnel les choix qu'il va y avoir sur les territoires. Et donc l'État va petit à petit laisser de plus en plus de pouvoir à des organes plus locaux. Donc on va avoir les régions, les conseils généraux qui vont petit à petit prendre de plus en plus d'importance, on va dire, dans les choix locaux. Cette décentralisation s'est faite en plusieurs phases. Qui court des débuts des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que on est toujours dans cette phase de décentralisation où l'État se concentre de plus en plus sur des compétences régaliennes, quoi, hein, de la sécurité, l'emploi, etc. Et toutes les autres compétences sont déléguées au niveau des collectivités locales. Et donc ça s'est fait au cours du temps. Et on le voit, par exemple, au début des fin des années 90, début des années 2000, ça va se traduire sur nos territoires, par exemple, avec l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir simplement une ou deux communes. On va regrouper des communes pour qu'elles puissent ensemble gérer les choses. Et on va dire que la décentralisation depuis une grosse quinzaine d'années va être de comment on arrive à avoir des échelles de discussion adéquates. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que on va, du fait de concurrence entre structures, etc., aller de plus en plus vers des échelles importantes. C'est-à-dire que les intercommunalités vont être de plus en plus grosses. Les régions, on l'a vu là avec les récentes fusions, on va sur des régions qui sont très très grandes. Hein, la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est presque la taille d'un petit pays européen, quoi. Hein, c'est vraiment des très grandes régions. On le voit avec les métropoles. La métropole de Montpellier, par exemple, qui est devenue vraiment des très grosses structures. Donc, à la fois, si on synthétise un petit peu, à la fois, il y a une phase de décentralisation, c'est-à-dire que c'est de moins en moins l'État qui organise, mais ensuite, dans la réorganisation territoriale locale, on va sur des organes de plus en plus gros, imposants, et qui ont de plus en plus de poids. La région, aujourd'hui, a un énorme poids sur l'aménagement du territoire, sur l'économie. Les départements ont beaucoup de poids sur le social, sur les routes. Les métropoles ont aussi énormément de compétences qui sont récupérées. Et donc, on est dans ce contexte-là qui peut paraître un peu perturbant pour les habitants, à se dire, oui, mais on est où, quoi? On appartient à une intercommunalité qui change, on appartient à une région, puis hop, ça rechange, etc. Et qui pose aussi un certain nombre de questions, donc par rapport notamment aussi à la participation citoyenne. Donc voilà, ça c'était un peu le contexte. Donc on est avec Clémentine Nelay de l'UNADEL, l'Union Nationale des Acteurs et Structures du Développement Local. Au niveau de l'UNADEL, quel est un peu votre positionnement par rapport à ce contexte, à ce large contexte de décentralisation en France ?
Alors, tu l'as dit, effectivement, l'UNADEL est née aussi à cette période-là, cette fameuse période de la décentralisation, dans les années 80, début des années 90. Et l'UNADEL a vraiment œuvré et continue aujourd'hui à œuvrer sur ce projet-là, à savoir défendre les territoires de projet. Alors les territoires de projet, il y en a plusieurs, il y a différentes formes. On a parlé tout à l'heure des pays, donc structure sur laquelle moi je travaille au niveau professionnel. Mais c'est aussi, tu l'as évoqué, les parcs naturels régionaux. Et du coup, c'est comment on défend ces structures, comment on leur permet une existence, comment effectivement dans ce paysage administratif où on renforce les grosses intercommunalités, où on renforce les régions, où c'est les structures assez lourdes, j'ai envie de dire, qui prennent de plus en plus de place, comment aujourd'hui on laisse quand même une place à des structures dans lesquelles la participation des habitants est la vocation de ces structures, et comment ces structures sont à l'écoute, effectivement, de la société civile sur les territoires. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de l'UNADEL. Et c'est comment on pousse aussi, dans les structures, type les structures intercommunales, à mettre en place des espaces de concertation et de participation. Donc on l'a vu, c'est la mise en place, par exemple, des conseils de développement. Donc ça, c'est aujourd'hui obligatoire pour les intercommunalités, les comités d'agglomération, pardon, d'avoir des espaces de concertation avec la population. Donc D'un côté, c'est une bonne chose qu'effectivement la loi oblige à cette concertation. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est comment on accompagne les collectivités pour mettre en place ces outils-là. Parce qu'on ne peut pas décréter la concertation sur les territoires, on ne peut pas décréter la participation. La participation, c'est avec des méthodes, c'est avec des outils, comment effectivement on associe la population aux décisions de la collectivité. Et nous, ce à quoi on essaie d'être vigilant, c'est le fait que on n'est pas seulement dans une... Enfin, il y a différentes formes de concertation et de participation citoyenne. C'est-à-dire qu'on peut se limiter, il y a des territoires qui le font, se limiter à de l'information. On informe les habitants, on informe les acteurs du territoire de qu'est-ce que fait la collectivité. Nous, ce qu'on essaie de pousser, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire co-construire. Mais pour co-construire, il y a de la formation qui est nécessaire, de la sensibilisation, de la vulgarisation. Tu l'as dit, le contexte politique et administratif, aujourd'hui, c'est complexe. Même quand on est dedans, on n'a pas toujours la facilité à s'y retrouver. Qui fait quoi ? Il y a la région, il y a le département, et puis il y a les métropoles. Maintenant, tout un système dans lequel c'est très, très rapide d'éloigner le citoyen, parce qu'on ne sait plus où est notre place, on ne sait plus... On nous propose de voter, mais est-ce qu'on peut faire autre chose que voter ? Voilà. Donc nous, notre action, elle est vraiment à ce niveau-là. À ce niveau-là aussi, dans ce contexte, c'est vrai qu'on est aussi vigilant et on s'interroge sur cette question des regroupements. Alors, il y a un besoin sur les territoires. On parle souvent d'un millefeuille administratif. Il y a trop de structures, des syndicats, des collectivités, des intercommunalités, un département, une région. Donc, c'est important d'effectivement d'essayer de rationaliser, d'essayer de limiter le nombre de structures pour qu'on puisse s'y repérer. Mais on s'interroge aussi sur ces très grandes régions, ces très grandes métropoles. Plus on a des outils qui sont gros, plus il y a une déconnexion aussi naturelle qui se fait vis-à-vis du citoyen. Donc c'est comment on replace un petit peu ces enjeux de participation par rapport à ce mouvement de décentralisation qui en soi est un mouvement, en tout cas un mouvement historique et dans lequel on s'inscrit. Et voilà, comment on arrive à garantir effectivement que tout un chacun puisse avoir connaissance de ces institutions, savoir comment on s'adresse à ces institutions, comment on participe à la construction des politiques publiques.
D'accord. Donc du coup, effectivement, on voit cette complexité, c'est-à-dire que à une échelle locale, les collectivités, avec ce phénomène de décentralisation, ont de plus en plus aujourd'hui des compétences, qu'on dit des compétences obligatoires, qui étaient avant portées au niveau de l'État et qui aujourd'hui, elles doivent le gérer à un niveau local et qui ne laissent pas spécialement la place pour des choses plus montantes qui viendraient des acteurs du territoire. Donc, un contexte un peu particulier, un contexte, là, on est vraiment dans de l'institutionnel, dans l'administratif. Je vous propose que, après une petite pause musicale, on voit plutôt l'autre côté, c'est-à-dire quelles sont les démarches plutôt citoyennes montantes qui existent sur les territoires. Thank you.
بیا تا حالا یک دیگر بدانیم.
C'était Ablaï Sissoko sur les ondes de Radio Escapade. Alors on a vu à l'instant la complexité, on va dire, du contexte des institutions territoriales depuis plus d'une vingtaine d'années, entre décentralisation, entre des institutions de plus en plus grosses, importantes, des grandes régions, des grandes métropoles, etc., etc., et des complexités entre millefeuille, pas millefeuille, territoire de projet, territoire de compétences, etc., etc. Mais au fond, l'habitant, lui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut faire, quelle est son action? Et c'est ça qui importe, au fond. On voit que, finalement, il y a plein de sujets qui nous intéressent au premier chef. Hein, savoir, est-ce qu'on crée une crèche ou pas dans son village? Est-ce que la route va pouvoir être améliorée? Est-ce qu'on peut maintenir des petits commerces dans son petit village de garrigue? Est-ce qu'on peut faire du télétravail dans un espace pour éviter d'être obligé d'aller jusqu'à la ville qui est à 30 km de là? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Et on ne sait pas spécialement vers quelle institution il faut se tourner, etc. Comment on fait pour dire son point de vue là-dessus? On voit en fait que de plus en plus, il existe des démarches qui s'auto-organisent en dehors des institutions en tant que telles, qui vont être des démarches voilà, entre citoyens, des gens de même quartier, des gens de même village, qui vont s'organiser pour répondre à un besoin qu'ils ont, pour discuter, échanger sur des points de vue qui ne sont pas tout le temps les mêmes, hein, sur la gestion même d'une rue, on peut avoir des avis très différents. Et ces démarches d'auto-organisation sont parfois très efficaces et vont parfois plus vite que ce que peut amener l'institution. Mais en même temps, ça peut aussi créer des choses, des doublons ou des choses qui sont en parallèle par rapport à ce que peuvent proposer des institutions et peuvent des fois y avoir une sorte de concurrence. Alors cette volonté d'auto-organisation des citoyens, on la voit de façon assez importante. On a vu aux dernières élections, en 2014, de nombreuses listes citoyennes qui se sont constituées. On voit de plus en plus de collectifs qui s'organisent sur telle ou telle thématique ou tel sujet. Et les collectivités ne savent pas toujours comment réagir. Est-ce que c'est des opposants ? Est-ce qu'au contraire, il faut les accompagner ? Donc il y a plusieurs types de réactions par rapport à cette auto-organisation, on va dire, de la participation citoyenne auto-organisée sur les territoires. Nous, au sein du collectif des Garrigues, on s'intéresse beaucoup à ça, déjà parce que notre propre histoire est un peu issue de ça, hein, on est des gens issus d'horizons différents qui s'intéressent aux Garrigues et qui se sont réunis pour faire valoir ces questions de Garrigues, et on connaît du coup tout un tas d'autres collectifs et d'autres démarches qui s'organisent comme ça. Et c'est vrai que ce lien entre ces collectifs-là et les institutions est une vraie question aujourd'hui. Est-ce que, du coup, Clémentine, de l'UNADEL, quel est son positionnement justement par rapport à ce nouveau contexte
Ben ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau de l'UNADEL, on se bat effectivement pour qu'il y ait ces territoires de projet qui ont cette vocation-là. On n'est pas dans la méfiance vis-à-vis des initiatives associatives, populaires, etc. Et au contraire, c'est comment on les accompagne, comment on les fait émerger, comment on fait entendre que c'est une voix qui est indispensable sur les territoires. Comme tu le disais, dans certains secteurs aussi, s'il n'y avait pas ces initiatives, la collectivité qui aujourd'hui a de moins en moins de moyens, on l'entend, n'est pas en capacité à faire. Donc du coup, nous vraiment, notre position est comment on accompagne ces initiatives, comment on les fait connaître, comment on permet qu'elles se démultiplient aussi, parce qu'une expérience qui se passe très bien dans la Drôme ou ailleurs peut être relayée dans d'autres secteurs. On l'a vu avec des expériences, on en a beaucoup entendu parler les dernières années, sur le covoiturage, des réseaux de covoiturage qui s'organisent de manière autonome. Parfois, la collectivité reprend ses initiatives en essayant de garantir une grande organisation, en essayant elle-même de couvrir tout le territoire, départemental ou régional. Mais en tout cas, vraiment, notre position à l'UNADEL, elle est de les favoriser, de les faire entendre, de les légitimer.
D'accord. Et donc, par rapport à cette... on en arrive à cette question d'échelle, c'est-à-dire que pour être entendu, pour être en lien, on va dire, entre ces démarches spontanées et les élus et l'institution, c'est vrai que la question d'échelle pose question. Aujourd'hui, la grande région, elle paraît très très loin pour un citoyen, se dire « Ouh là là, il va falloir aller jusqu'à Toulouse, j'y suis allé deux fois dans ma vie, c'est loin quoi, ça nous paraît vraiment inaccessible, les lieux des décisions paraissent très très loin par rapport à là où on est ». C'est vrai que ça pose un peu cette question de la proximité aussi entre les décideurs et les gens qui ont des projets quoi.
C'est aussi pour ça qu'on se pose la question de, au niveau local et au niveau de la commune, est-ce que c'est pas à cette bonne échelle-là aussi qu'il peut y avoir les échanges avec les élus, et comment ces élus municipaux, ils sont aussi animateurs d'une démocratie sur leur territoire, comment eux-mêmes font remonter par les élus régionaux, départementaux, etc., les questions qui se posent sur les territoires. La question de l'échelle, elle n'est jamais facile, puisqu'il n'y a pas de bonne échelle. Il n'y a pas une échelle qui réponde à toutes les préoccupations. Si on parle de déplacement, on parle à des échelles qui sont plus larges, parce qu'on prend en compte les déplacements entre le domicile, entre le travail, etc. Si on commence à parler de l'habitat, l'échelle de réflexion, ce n'est pas la même. Donc, de toute façon, il n'y a pas de bonne échelle de réflexion. Le tout, c'est de réussir à garantir que sur les territoires, il y a un lieu de dialogue, il y a un lieu d'écoute, et qu'effectivement, on puisse s'adresser à nos institutions sans devoir se déplacer à Toulouse. Donc, c'est comment aussi ces institutions se rendent accessibles. Et aujourd'hui, il y a des outils, il y a des expériences qui montrent que c'est possible. Et effectivement, il y a plein d'initiatives dans ce sens-là. Mmh. On l'a vu aussi, la participation citoyenne, c'est aussi comment sur ma commune, c'est le cas de la mairie de La Salle, je veux maintenir... la station essence sur mon territoire. Aujourd'hui, ça se casse la figure parce que faute de financement. Comment on fait appel à un financement participatif pour maintenir effectivement un commerce, mais qui est plus qu'un commerce, qu'un service sur les territoires, une station essence. Voilà, il y a plein de formes de participation qui peuvent être différentes.
On a vu également, oui, à Massillargues, un financement participatif pour aider un nouveau troupeau de s'installer, un nouveau troupeau de brebis. Donc on voit qu'il y a des organisations un peu nouvelles qui n'existaient pas spécialement autrefois. Et on voit aussi que la participation, elle peut se faire à plusieurs échelles et avec différents outils. C'est-à-dire qu'elle peut se faire à une échelle très locale, plutôt en présence, quoi, à l'échelle du quartier, etc., mais à des échelles plus larges, grâce quand même aux outils Internet aussi, qui permettent cette plus grande échelle. Enfin, et du coup, c'est vrai que dans ce contexte-là, aujourd'hui, on voit que on a une envie de participer. On voit une envie de participer importante, mais comment éviter qu'il y ait une confrontation un peu frontale entre ces démarches citoyennes et des démarches institutionnelles? C'est aussi un vrai risque qu'on peut voir poindre aujourd'hui. On le voit, hein, avec le discrédit très important qu'il y a vis-à-vis des élus, vis-à-vis des institutions, etc. On voit qu'il y a une tension qui est assez importante à ce niveau-là. Et donc, comment on invente des nouvelles façons de dialoguer, c'est vraiment au cœur des rencontres, notamment qu'organise l'UNADEL. Et donc, une de ces rencontre va se passer très prochainement à Tornac. Donc, après une petite pause musicale, on va parler plus particulièrement de cette rencontre.
Longue vie à toi, peuple couronné de pleurs, abaissons-moi la jacqueline. Allons à l'endroit, parlez au parlement. Au poteau mitant.
Thank you.
C'était Lojo sur Radio Escapade. Et donc, on est sur l'émission Escapade en Garrigue. Et donc, on parle aujourd'hui de territoire et de participation citoyenne sur les territoires avec Clémentine Lelay, membre de l'UNADEL et directrice du pays Garrigue et Costières de Nîmes. Alors, le jeudi 21 janvier, à Tornac, au foyer de Tornac, se déroule une rencontre, les rencontres territoires en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, qui a pour titre « La commune, espace privilégié pour la participation citoyenne ?» Point d'interrogation. Et dessous, il y a un petit texte. « Entre des régions de plus en plus vastes et des métropoles de plus en plus puissantes, où se situe dans ce contexte l'espace de dialogue, d'échange avec l'habitant, le citoyen ?» Le nouveau rôle des élus municipaux serait-il d'être animateur, facilitateur d'une démocratie participative renouvelée ? Comment les dynamiques citoyennes peuvent-elles répondre aux besoins de débat et d'action de proximité ? Donc, un sujet passionnant. Alors, Clémentine, pourquoi avoir organisé ces rencontres territoires à Tornac, sur la commune de Tornac ?
Alors, pour répondre à cette question, juste de rappeler qu'effectivement, donc l'UNADEL a souhaité, en partenariat avec la Caisse des dépôts, Mairie Conseil, mettre en place des rencontres dans les territoires. Rencontres pour permettre de discuter des réformes territoriales, de la participation. Et on a choisi comme échelle la future région, donc maintenant actuelle, région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Et on a cherché 4 territoires en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées pour parler des enjeux de participation citoyenne et de lien urbain-rural, métropolisation dont on a parlé tout à l'heure. Alors Tornac, pourquoi ? Parce qu'effectivement, donc, Tornac, qui est donc une petite commune de 900 habitants près d'Anduze, a elle-même initié plusieurs démarches en matière de concertation à l'échelle de sa commune. Ils ont ce qu'ils appellent les référents de quartier, les comités consultatifs. Voilà, c'est une commune qui est dans cette logique-là, qui a cette envie-là et ce besoin-là d'être en lien avec ses habitants. Cette commune, elle a été rattachée, donc elle appartenait à la communauté de communes autour d'Anduze et elle a été rattachée à l'agglomération d'Alès en 2013. Donc c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, ce phénomène où on est aujourd'hui dans un agrandissement de plus en plus grand des intercommunalités. Et aujourd'hui, l'agglomération d'Alès est encore, dans le cadre de la réforme actuelle de la carte intercommunale, amenée encore une fois à grossir. Donc ça pose aussi beaucoup de questions à la commune de Tornac, qui déjà en 2013 c'était difficile, ce passage à une grosse intercommunalité, et là encore de passer à une supra-intercommunalité. Donc voilà, c'est vrai que ça tombait bien, cette commune qui se pose ces questions, l'UNADEL qui a ce besoin de se nourrir des expériences locales, besoin d'aller voir ce qui se passe sur les territoires. Donc c'est comme ça que se sont rencontrés l'UNADEL et Tornac.
D'accord. Donc les autres ateliers rencontres territoires, elles se sont déroulées où ?
Elles se sont déroulées pour ce qui concerne donc l'ex-région Languedoc-Roussillon-Auquelard.
D'accord.
Et pour Midi-Pyrénées, en Haute-Garonne, dans le Sicoval au nord de Toulouse et dans le sud toulousain au sud de Toulouse.
D'accord.
Voilà, des rencontres qui ont eu lieu en novembre et en décembre. Et donc Tornac est la dernière de ce cycle de rencontres.
Donc le jeudi 21 janvier. Alors si on regarde un peu plus précisément le programme de cette journée, comment il est composé ?
Alors cette journée, elle commence à 9h, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, au foyer de Tornac. On passera la matinée essentiellement sur des retours d'expérience, des focus sur cette problématique de la participation citoyenne. Donc on a essayé de trouver six focus différents de participation, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc on a l'expérience du Conseil de développement de Nîmes Métropole qui vient témoigner d'une participation, comme on l'a dit, plus vue par une institution, comment elle met en place effectivement cette participation sur ce territoire. On a l'expérience, puisqu'on vous fait venir aussi au collectif, donc du collectif des Garrigues, qui va venir témoigner. On a la question du financement participatif qu'on a évoqué tout à l'heure. J'en oublie certainement encore.
Là, je vois aussi il y a la question des tiers-lieux, des lieux de coworking à Saint-Martin-de-Londres qui s'organisent justement pour la question des déplacements, du travail sur la commune de Saint-Martin-de-Londres. Et on voit également, voilà, et peut-être la question des commissions extra-communales, comment on met élus et habitants, donc une expérience du côté de Claret qui est présentée.
Voilà, exactement. Et l'idée, c'était effectivement d'avoir des expériences variées, de différentes formes, de différentes échelles, pour qu'on puisse en atelier s'interroger et voir un petit peu qu'est-ce qui a permis à toutes ces expériences de se mettre en place. Quelle est la place de la collectivité par rapport à ça? Comment elle accompagne? Comment elle impulse? Comment parfois elle est en retrait? Comment... Voilà, l'objectif, ça sera de travailler donc, dans la fin de matinée en atelier. Et ensuite, l'après-midi, donc il y a un repas qui est proposé sur place, donc pour une inscription de 8 euros par personne. Et l'après-midi, on a souhaité faire venir Tristan Réchid, donc qui est lui membre du Conseil des Sages de la mairie de Saillance, dans la Drôme. Donc là, c'est vraiment une commune qui s'est mobilisée, enfin, en tout cas des habitants qui se sont mobilisés lors des dernières élections municipales pour monter une liste citoyenne sur leur territoire. Et aujourd'hui, c'est une expérience qui fait un peu des émules, en tout cas qui semble avoir bien fonctionné, une vie démocratique très très riche qui s'organise sur Saillance. Et donc, on souhaitait le faire intervenir pour son retour d'expérience, sachant que lui-même, et peut-être que tu en parleras mieux que moi, est en train de se lancer dans une tournée des 36 000 communes de France pour essayer de dynamiser de réussir à former des citoyens à ce qu'il puisse y avoir le plus de listes citoyennes possibles, comme voilà. On disait tout à l'heure, vis-à-vis d'un peu de cette méfiance et de la déconnexion qu'on constate aujourd'hui entre les élus, alors pas tous bien entendu, mais entre certains élus et effectivement les habitants sur les territoires. Donc il y a cette envie-là de Tristan Réchid, et il va venir nous en parler aussi, comment ça s'est mis en place sur son territoire.
Effectivement, l'expérience de Saillant fait beaucoup parler, puisqu'ils ont essayé d'organiser vraiment une démocratie réelle, une démocratie directe à l'échelle de leur village. Hein. À titre d'exemple, en un an et demi, ils ont fait plus de 70 réunions publiques. Il y a plus de 25% des habitants qui participent à tous les grands choix de la commune, etc. Et puis, ils travaillent aussi sur les méthodes, sur l'organisation, comme la mise en place de ce conseil des sages sur la commune. Et donc là, c'est un véritable retour d'expérience. Mais en plus, c'est vrai que la personnalité de Tristan Réchid fait qu'il a rencontré déjà plein d'autres expériences ailleurs, et donc il pourra nous apporter une vision assez large ce jour-là de ce qui bouge dans les communes en France. Alors, comment on s'inscrit, comment on fait si on est intéressé pour participer?
Alors, si on est intéressé, c'est assez facile. Il y a un site internet de l'UNADEL, donc www.unadel.org. Et donc sur ce site internet, vous trouverez une page qui est vraiment dédiée aux rencontres territoires, avec un formulaire d'inscription pour la journée du 21, donc on le rappelle, jeudi 21 janvier, de 9h à 16h30, au foyer de Tornac, près d'Anduze.
Eh bien, merci beaucoup Clémentine, et puis on vous attend donc à Tornac le 21 janvier, et on va se quitter avec une petite musique de Eric Satie.
Merci, au revoir.
Au revoir.